Comprendre Internet et ses techniques pour mieux l'utiliser, en particulier avec des logiciels libres et services respectueux des utilisatrices et utilisateurs, pour son propre bien-être en particulier et celui de la société en général. C'est la chronique à cœur vaillant, La voix est libre, de Laurent Costi, administrateur de l'April, et de sa fille Laurette. Le titre de la chronique du jour, suivi du bol alimentaire algorithmiquement traçant et observateur, on se retrouve dans 10 minutes.
Papa, au secours! Je suis tombée sur un de tes camarades libristes en cherchant un taf estival et il s'est gentiment moqué de moi parce que j'avais une adresse Gmail.
Rouloulou, ils sont coquins parfois ces libristes. J'espère qu'il t'a donné une raison quant à cette gentille moquerie et qu'il t'a proposé de t'offrir l'hébergement d'un mail ou, à minima, qu'il t'a filé l'adresse du site chaton.org.
Oh, en fait non, il m'a juste proposé un travail. Comme c'est ce que je cherchais, j'ai habilement et subtilement éludé la question du mail. Mais je veux bien comprendre pourquoi une adresse Gmail peut déclencher de la gentille moquerie.
Tu veux une réponse politique et technique ou les deux?
Oh, sur le plan politique, je vois déjà quelques éléments de réponse. Ne pas utiliser une adresse Gmail évite de renforcer une position largement dominante, logique. Ceci étant, ne pas utiliser une adresse Gmail, c'est un peu comme soustraire une goutte de rhum d'une piscine olympique remplie de ce liquide euphorisant.
Je vais cacher mes bouteilles, je trouve que tu parles beaucoup de rhum en ce moment. Tu ne serais pas en train d'essayer d'oublier que tu passes des partiels en fin d'année? Mais je comprends ton doute quant à l'efficacité d'une telle mesure. Les GAFAM sont trop puissants. Cette raison-là peut sans doute déjà suffire pour agir, mais sans se leurrer effectivement sur l'efficacité d'un tel acte.
Il a dit aussi que Google lisait mes mails. Mais techniquement, ça me semble un peu compliqué de changer d'adresse mail. Et ça prend du temps. Faut aussi que j'informe mes contacts, tout ça, c'est long.
Ah bah sur le fait que Google lit les mails, si on en croit le journal du Geek en 2018 qui croit leurs conditions générales d'utilisation, il semblerait que cette pratique ait cessé. Tu noteras que ça fait plein de conditionnels tout ça. Bien sûr, on n'a aucun moyen en tant qu'utilisateur et utilisatrice d'en avoir la certitude.
Et puis d'un autre côté, s'il fallait payer des gens pour lire le contenu des mails, étant donné le nombre de courriels qui voyagent sur internet chaque minute voire chaque seconde, il faudrait payer beaucoup de gens. C'est pas l'argent qui manque chez eux, certes, mais comme ils croient d'abord en la machine avant de croire en l'être humain, j'imagine qu'il y a des algorithmes qui les remplacent pour cette fastidieuse tâche.
Mais carrément, je t'en parle après de ces algorithmes, mais de toute façon, je suis convaincu qu'ils n'ont plus vraiment besoin de lire dans le détail le contenu des mails. Les métadonnées leur permettent déjà de nous identifier, de prédire nos comportements et de se faire des pétacentimes d'euros avec l'obscur système spéculatif sur lequel la publicité programmatique repose.
Ah mais oui, le livre Le Grand Crash de l'Attention de Tim Wang parle de ça justement. Il a étudié le marché de la publicité programmatique.
Toi, t'as encore fouillé dans mes tiroirs. Je vois super bien ce que c'est que la publicité programmatique, mais tu peux peut-être l'expliquer aux poditeuses et poditeurs pour lever toute ambiguïté et probablement quelques lièvres.
Je fais un peu ton boulot là, non? Ça fera deux caramels et un rond doudou. Déjà que je lis tes livres au sérieux pendant que tu lis des BD. Bon, bref. La publicité programmatique, c'est ce système d'enchères qui permet de vendre en quelques millisecondes des espaces publicitaires sur des sites internet en fonction de profils de personnes prédéfinies.
Si je comprends bien, supposons que je sois PDG d'une start-up qui vend des toilettes connectées. On appellerait ce merveilleux produit le Caca Connect.
Oh, tu préfères pas genre scato pour suivi du caca algorithmiquement traçant et observateur? J'ai même le sous-titre, attends. Scato, des toilettes qui vous suivent à la trace. C'est tout un art de vendre de la...
Va pour scato, donc. Et donc, pour faire de la publicité, je vais sur une plateforme qui offre ce service, je choisis mes critères, par exemple, classe sociale plus, oui désolé, les toilettes connectées ça coûte cher, tranche d'âge plutôt senior, mais aussi couple avec enfant, car pour certains parents, publier le premier caca dans le pot sur Insta ne suffit plus. Ils ont aussi besoin de suivre dans le temps l'évolution du caca mou de leur enfant. Escato le fait pour vous.
Ah, c'est un peu simplifié, mais ça donne une bonne idée. Et donc, Tim Wang, dans son livre, il explique qu'il a analysé le marché de la publicité programmatique et qu'il retrouve des similitudes avec la crise des subprimes en 2008, par exemple. Il estime que l'on est à la veille de l'éclatement d'une bulle dans ce domaine.
Étant donné l'obscurité qui règne dans le domaine et les structures impliquées, souvent juges et parties, son hypothèse est très probable, finalement. Bref, bon bouquin, donc ?
Oui, bah, à ceci près qu'il ne sait pas imaginer un internet sans publicité et n'y croit pas. À la fin de son livre, il invente, pour les besoins de sa démonstration, un réseau social non adossé à la publicité alors qu'il y a tout le fait divers, donc avec Mastodon, Peertube par exemple, qui existent donc et qui fonctionnent très bien. Ça montre une certaine ignorance de la part de l'auteur, mais il est américain et le fait divers n'est peut-être pas aussi promu qu'en Europe.
Ok, mais peut-on revenir à la lecture des mails par Google, jeune fille indisciplinée qui lorgne trop ma table de nuit ?
Oui, mais ça fera 2 rondes supplémentaires. C'est comme ça, c'est pour t'apprendre à tenir ton podcast.
D'accord, Miss Morel. Bon, il faut en fait distinguer la lecture automatique et la lecture par des yeux d'êtres humains. Google affirme que des yeux humains, sauf exception comme ils disent dans les CGU, ne lisent pas les mails. Mais ça ne veut pas dire que des robots ne le font pas. Un ponte de la NSA aurait dit un jour « Un logiciel qui lit votre courrier, c'est comme un chien qui vous voit nu, ça ne compte pas. » Moi je dis que c'est pire, parce qu'il arrive à lire dans les désirs profonds.
Ah ouais, et comme d'habitude, ils en font un argument de promotion et de défense de l'utilisateur et de l'utilisatrice. Nos fonctionnalités de filtrage du spam optimisées par l'IA bloquent près de 10 millions d'emails indésirables par minute. C'est génial! Sauf que, symétriquement, à bas bruit, ils collectent et scannent automatiquement nos données.
La meilleure preuve est peut-être les propos d'un autre géant du numérique qui excelle dans sa capacité à empapaouter les gens. Microsoft, pour ne pas le nommer. Il affirmait en 2012, je cite ses croustillants, « La messagerie Gmail peut toujours dire qu'elle analyse vos messages afin de vérifier qu'ils ne contiennent pas de spam. C'est bien votre vie privée qu'elle scrute. »
Même si la différence entre une IA et un humain est qu'il n'y a pas de jugement dans le premier cas, finalement, le résultat est le même. Très crade. Il s'agit toujours de ranger les gens dans des cases pour toujours mieux profiler, vendre et dominer. Et puis, l'examen par un programme, ça peut aussi être l'étape préalable pour trier ce qu'un humain lira.
En effet. Et d'ailleurs, quand on domine, on fixe les règles. Et quand on fixe les règles, on décide qui diffuse des bons mails et qui diffuse des spams.
Je décrète ici, le spam est la 8e plaie d'Égypte de l'internet des sauterelles. Si on reprend l'analogie de notre chronique précédente, au passage chronique ayant reçu 5 étoiles sur 5 dans l'excellent observatoire des hackers vaillants. Donc, si on reprend l'analogie, c'est-à-dire un mail égale un demi-verre de rhum, alors 600 millions d'indésirables par heure, ça fait plusieurs piscines olympiques de rhum gaspillées.
C'est un des nombreux effets pervers de la publicité sur Internet qui a contribué à ce flot de spam continu, vomitif et énergivore. Les plateformes qui ont consolidé leur fortune colossale sur la publicité essaient de contrôler ce vomi produit, mais rechignent à interroger et modifier le modèle en amont, car ce serait trop dangereux pour leur profit et leur pouvoir.
Tu parles de nombreux effets pervers, donc il y en aurait d'autres ? En dehors aussi de la logique publicitaire globale qui doit toujours faire vendre plus, augmenter la croissance et donc accélérer le processus de dégradation de nos écosystèmes sociaux et environnementaux, tout ça c'est déjà pas mal quand même.
C'est cette capacité à décider pour les autres et à dominer. J'ai halluciné en échangeant avec mes petits camarades des systèmes d'information des CMEA de voir à quel point la gestion d'un serveur de mail est devenue un métier à part entière. Il faut sans cesse surveiller les notes de fiabilité attribuées au serveur. Si une boîte mail gérée par le serveur a été hackée et qu'elle a diffusé du spam, c'est tout le serveur qui est blacklisté. Et il faut alors contacter les gros relayeurs de mail, la poste.net, Gmail, etc., pour montrer patte blanche et expliquer qu'on est gentil. C'est zéta galère.
Waouh, c'est un peu comme si un facteur automatique lisait les lettres qui lui passaient entre les doigts, détecter le mot « vendre escato » et qui gardait la lettre estimant que c'est de la pub alors que j'écrivais simplement à mamie que je faisais une chronique avec toi pour vendre des escato. On est suivi à la trace.
Exactement. Sans compter que les serveurs sont parfois bloqués suite à des faux positifs ou sans même que l'on puisse connaître les raisons profondes du blocage.
Et pour mon mail, du coup, tu m'as plutôt convaincu en fait que j'aurais moins de problèmes en restant chez les puissants.
Ton côté rebelle est trop développé, je sais que tu as envie au plus profond de toi de contribuer au changement pour le mieux, même si ça peut paraître insignifiant dans l'instant. Donc il faut que l'on regarde deux aspects, d'abord choisir le fournisseur alternatif en fonction de tes besoins, et se donner une stratégie de migration adaptée aussi à ses besoins.
T'avais pas un serveur de mail sur ta brique internet commandé chez Neutrinet ?
Tout à fait! Je vois que tu suis mes achats qui permettent de s'émanciper numériquement petit à petit néanmoins.
Ah, du coup, il faut aller à la maternité pour avoir un nouveau-né.
Oui, néanmoins, quand même donc, je ne recommande pas cette solution. Ce serveur, étant donné mes compétences, est plutôt à considérer comme serveur expérimental. Je ne préfère pas garantir un service continu avec assistance 24/24. D'autant que je vais sans doute couper ce serveur la nuit pour des questions énergétiques. D'autres personnes utilisent cette brique internet avec Why You Know Host en production, comme on dit, mais ils sont plus sûrs d'eux et compétents.
Oh, mais tu as d'autres compétences, mon petit papa. Comme celle de savoir clore une chronique avant qu'elle ne soit trop longue, par exemple.
C'est vrai, tu me connais bien. On va donc se donner rendez-vous une prochaine fois pour voir ensemble comment changer d'adresse en douceur et s'émanciper dans la joie et la bonne humeur.
Youpi.
Je te pop un bisou sur le front.
Oh, il m'apprend plein de choses, mon petit papa. C'est cool. Allez, plein de bisous chiffrés.
C'était la chronique La Cœur Vaillant, la voix est libre de Laurent et Laurette Costi. On suivra sans doute en juin la suite de leurs aventures.